This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. À la toute fin de l'année dernière, le président américain Donald Trump a surpris le monde entier, à commencer par son propre état-major, en annonçant le retrait imminent des troupes américaines encore stationnées en Syrie, au motif que le groupe État islamique serait vaincu sur place. Une déclaration un poil précipitée puisque les combats ne sont pas terminés, que les djihadistes certes reculent, mais sont encore présents et restent une réelle menace. Ce qui explique sans doute que cette annonce a depuis été très largement tempérée par la Maison-Blanche. Et au-delà de ce cafouillage, ce qui retient notre attention, c'est l'illusion qu'on peut avoir en suivant les choses d'un œil un peu distrait, que la guerre en Syrie est terminée. Elle ne l'est pas, et le pays étant devenu un enjeu de pouvoir international entre l'Occident, la Turquie, la Russie, pour ne citer que quelques-uns des acteurs du conflit, les choses sont loin de s'être éclaircies sur place. Il n'empêche, la Syrie s'éloigne de nos radars médiatiques, ce qui ne veut pas dire que les journalistes n'y vont plus. Au contraire, ils sont encore nombreux à faire le voyage pour raconter cette guerre hors du commun. C'est de leur travail que nous avions envie de vous parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre guide dans ce conflit, c'est Luc Mathieu. Il est journaliste à Libération, il est ce qu'on appelle communément un reporter de guerre, figure ultra fantasmée dans les médias. Il a déjà couvert de nombreux conflits, l'Afghanistan, la Libye et la Syrie, donc où il se rend régulièrement depuis 2012. Une quinzaine de visites au total, parfois très près des zones de combat. La dernière, c'était il y a quelques semaines. Pour démarrer notre discussion, je lui ai posé cette question à la fois très simple et infiniment compliquée. Comment est-ce qu'on raconte la guerre ?
Comme n'importe quel reportage, c'est-à-dire qu'on essaye, en fait, on essaye d'y aller, déjà, au plus près, parce que après, c'est des questions, toujours des questions de proximité, jusqu'où on peut aller, combien de temps on peut rester, etc. On essaye d'aller le plus loin et le plus près possible, de voir un maximum de gens, d'essayer de comprendre, en croisant ce que racontent les gens. Et une fois qu'on essaye de qu'on pense, pas forcément avoir compris, mais disons qu'on a. On essaye d'être juste, dans le sens pas juste de la justice, mais juste au sens de la justesse du propos et du récit. C'est-à-dire pas faire un truc complètement en dehors de la réalité de cette guerre-là. Quoi. C'est-à-dire pas prendre une histoire qui est complètement anecdotique, ou alors on le fait exprès, on dit, voilà, ça c'est totalement anecdotique dans cette guerre. Mais quand on essaye de raconter la guerre, c'est essayer de trouver des choses qui la racontent de la façon la plus juste possible, sachant qu'elle sera bien évidemment jamais parfaite, qu'il y aura toujours des approximations, parfois des raccourcis, mais je pense que c'est la notion de justesse qui est la plus importante. Donc ça veut dire, et pour essayer de tendre vers ça, à mon avis, c'est de passer le plus de temps possible, de voir le plus de gens possible, de parler avec eux assez longtemps. Alors, plus on les connaît, mieux c'est, parce qu'on sait, on peut les placer, on connaît leurs opinions, etc. Et de voir comme ça un maximum de choses. Et après, de garder ce que... Mais après, parfois, on n'a pas le choix, ça va très vite, on doit partir. Parfois, on ne fait pas d'article parce qu'on n'a pas assez de choses, ou on ne comprend pas, ou on se dit, mais pourquoi, enfin... Donc, après, c'est du reportage, mais c'est aussi comme un reportage en France. Je veux dire, si on va n'importe où à Paris ou dans une autre ville, qu'on fait un reportage, on ne sait rien, mais sur les cafés ou les marchés ou je sais pas quoi, c'est de passer le plus de temps possible, de rencontrer les gens, d'essayer de comprendre d'où ça vient, où ça va. Alors, pas faire de prédictions. Plus on a d'expérience, je trouve, moins on essaye de prédire ce qui va se passer.
Oui, de prédire l'issue d'un conflit, surtout un conflit où il y a 15 acteurs différents avec des intérêts totalement opposés.
Personnellement, à chaque fois que j'ai essayé de le faire, je me suis totalement planté. Et donc, je ne sais même plus. Et quand on me demande qu'est-ce qui va se passer, je dis je sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis, peut-être que ça va être plutôt ça, peut-être ça, mais je ne sais pas en fait. Et Le fait est, même sur des trucs très concrets, très Albarouz, par exemple, aujourd'hui, c'est apparemment 700 mètres carrés.
Petite parenthèse géographique. Albarouz, c'est la petite zone qu'il reste de l'autoproclamé califat du groupe État islamique qui, au plus fort de sa domination sur la région, s'étendait du nord de la Syrie jusqu'au centre de l'Irak, avec même une incursion au Liban. Depuis 2015 et l'entrée en jeu des différentes coalitions luttant contre Daesh, son territoire n'a fait que diminuer jusqu'à donc se limiter à cette zone de moins d'un kilomètre carré dont ont été évacuées plusieurs milliers de personnes récemment et dont on nous annonce la chute imminente depuis un petit moment déjà, mais ça je vais laisser Luc Mathieu le détailler.
Moi quand j'étais, je suis rentré à 15 jours maintenant, un peu plus même. Je suis parti, les Kurdes me disaient oui, bah là tu devrais rester parce que dans deux jours ça sera fini. Et moi on a un problème de traducteur, bref. Puis ça me paraissait un peu court, donc et c'est toujours pas fini. Et ça se trouve ça va encore durer une semaine, ou peut-être deux, ou peut-être trois. Ou
peut-être un mois et demi.
Peut-être un mois et demi, je sais pas. Enfin, après ça m'étonnerait que ça soit aussi long, mais je peux pas dire quand ça va finir. Et comme, je sais pas, il y avait un autre exemple qui m'a personnellement marqué, c'était la Libye, parce qu'à la fin, j'avais couvert la révolution, la guerre, etc. Et à la fin, c'était un peu la même situation, toute chose égale par ailleurs, mais à Sirte, où il y avait les derniers kadhafistes, etc. Et moi, j'étais avec des collègues, je n'étais pas tout seul, on suivait la bataille, c'était compliqué à suivre, enfin, c'était dangereux, c'était un peu chaotique, parce que les rebelles libyens, sont pas des, c'est pas une armée, quoi, donc ça partait un peu dans tous les sens. Et donc, il restait pareil, un réduit, un quartier de la ville, en fait. Donc, très peu de centaines de mètres carrés, en fait. Très peu de combattants. Et on est parti. Et moi, le lendemain, enfin, même pas le lendemain, quelques heures après, on dit qu'il y avait Kadhafi qui était là. Et moi, le seul témoignage que j'ai eu sur une possible présence de Kadhafi, c'était quelqu'un qui faisait les renseignements d'un groupe libyen. Et qui m'avait dit oui, on a vu un indo qui sortait. Et le jeune nous a dit j'ai vu Kadhafi. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, vous y croyez? Il me dit non. Il me dit non, Kadhafi, il est parti. Je peux me donner un endroit dans le désert. On savait qu'il y avait un de ses fils. Ça, c'était sûr, c'était corroboré. Mais lui, non. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas comme ça. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer.
Il y a quand même une différence entre couvrir la guerre et aller dans les marchés, pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure. C'est le danger, évidemment. On a toujours un peu le cliché, l'image d'épinal du reporter de guerre qu'on voit dans les films, quelque part. Comment est-ce qu'on... Où est-ce qu'on place la limite? Comment est-ce que vous gérez, vous, cette notion-là de danger, de dire, bah là on ne va pas y aller. Là, on ne va pas y aller parce que le risque est trop grand. Comment est-ce qu'on dose entre le besoin d'information et le risque pour sa propre vie, tout simplement?
Bah, plus on connaît, évidemment c'est plus c'est facile. Et même en Syrie, il y a des choses que je ne ferais pas. Enfin...
Par exemple?
Par exemple, m'approcher trop d'une position de l'armée syrienne, parce que là, je sais que... Enfin, ou risquer de tomber sur une route où il y a un barrage de l'armée syrienne, parce que là, je sais que si je tombe dessus, je ne m'en sortirai pas, quoi. Donc, en Afghanistan, par exemple, je sais qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, d'autres qui étaient complètement impossibles. Alors maintenant, ça fait quelques années que je n'y suis plus, donc il faut aller voir aujourd'hui, mais je sais quand j'étais, par exemple, aller dans les zones tribales pakistanaises, qui sont vraiment la frontière à l'est de l'Afghanistan... où il y avait des talibans afghans, des talibans pakistanais, Al-Qaïda, plein de groupes plus ou moins radicaux, mais plutôt plus radicaux que moins radicaux. C'était inaccessible quand, à l'époque où j'y étais, pour un journaliste occidental. Et ça passait pas. On pouvait connaître le Mollah Omar, ça passait pas, quoi.
Ouais.
On se serait fait attraper par un autre. Après, quand on connaît pas, c'est là où c'est le plus risqué. C'était la Libye, par exemple. La Libye, c'était compliqué parce que... les groupes rebelles n'étaient pas forcément bien coordonnés, très enthousiastes, et ils avançaient. Donc ils avaient ce sentiment de la victoire, qu'ils ont eu d'ailleurs, mais c'était justifié ce sentiment. Mais donc, parfois ils s'emballaient, ils partaient en pick-up, ils fonçaient. Et quand on était avec eux, d'un seul coup, on se retrouvait, ils étaient allés trop loin, quoi.
Ouais.
Donc il fallait reculer, mais vite reculer, parce que... Et on ne pouvait pas leur dire, faut pas y aller, parce qu'on ne savait pas vraiment où ils allaient. On savait pas, ils disaient, si, viens, c'est bon, on y va, t'inquiète pas. Et après, on se rendait compte, on disait, bah, en fait, non, j'aurais pas dû y aller parce que ça servait à rien en plus. À raconter, il n'y a rien à raconter. Et on voit juste qu'ils sont trop, trop optimistes, si on peut dire, trop enthousiastes. Donc, il n'y a vraiment pas de. Après, ça peut être des questions de feeling, hein, tout simplement.
Mm.
Ou on est avec d'autres aussi. On est avec d'autres journalistes ou des photographes. Il y en a un qui dit, non, mais ce truc-là, là, je ne le sens pas à cause de ça. On peut écouter. Ou dire au contraire, non, je pense que c'est bon, on peut y aller. Et puis après, on peut être très, très expérimenté. Et puis, voilà, ça passe pas. Et... et on se fait enlever ou tuer ou blesser. Ou... Alors qu'il n'y a pas eu de faute particulière.
Oui.
C'est juste que ce jour-là, ça passait pas, quoi. Alors que le jour d'avant, ça passait. Le jour d'après, ça passerait. Donc ça, c'est...
Quelle spécificité a le conflit syrien par rapport aux différents théâtres de guerre que vous avez pu connaître ?
Moi, c'est le plus sauvage que j'ai vu, de très très loin. De très très loin, parce qu'il y a aucune... C'est un conflit où il n'y avait aucune limite. Où il n'y a aucune limite. C'est-à-dire quand j'étais à partir de 2012, et à cette époque-là, après, là, c'était en janvier, j'ai vu, j'étais dans une famille qui m'hébergeait avec un village compliqué, il y avait aussi des pro-régime, eux étaient anti-régime. Ils commençaient à s'armer, mais alors quand à s'armer, c'était une Kalachnikov pour trois. Ils comptaient littéralement les balles. Je les ai vu faire. Ouais. Ils achetaient pièces, quoi. Ils achetaient les très chers en plus. Ils se battaient pas vraiment, mais ils sentaient. Il y a eu des manifs, il y a eu des manifestations régulièrement le vendredi, souvent c'était plus, où d'un seul coup un avion arrive et largue une bombe. Il y avait des tirs d'artillerie, il y avait des hélicoptères qui arrivaient dans un village et qui tiraient la mitrailleuse lourde sur des habitations. Il y a eu les armes chimiques, j'ai travaillé là-dessus à Alep. Alors c'était pas du tout l'ampleur de ce qu'il y a eu dans la Ghouta en août 2013. Moi c'était un peu avant, et c'était un bombardement chimique qui tombait sur, en plus, le quartier kurde d'Alep, mais alors qui tombait dans la partie arabe du quartier kurde. C'est compliqué parce que c'est toujours des imbrications, mais... Et après j'ai ramené des échantillons, je les ai fait analyser, ça a pris des mois, 9 mois de mémoire, et pour finir en France, ils m'ont dit, en fait, c'était du sarin. C'est-à-dire, ils ont vraiment tiré au sarin sur une ville. Alors, il y avait eu 3 morts.
Oui.
Et quand on parlait aux habitants, c'était un enfant qui était mort, sa mère et un voisin de mémoire. Quand on demandait aux voisins 15 jours après, mais pourquoi ils ont tiré là, ils disaient, c'est pour qu'on parte, pour nous faire peur. Et après, il y a toute la dimension et qui est toujours valable aujourd'hui, ça se passe en ce moment, là, c'est les arrestations. Les arrestations massives, envoyées dans des prisons, torturées à mort. Au mieux, ceux qui sont contents, même, c'est de mourir vite. D'autres, ils traînent pendant des années dans des conditions, mais ça a été pareil. L'ONU parle de crimes contre l'humanité. C'est pas rien. Enfin, c'est des dizaines de milliers de personnes.
Envers le régime syrien.
Contre le système de détention syrien, où il y a des prisons connues, il y en a d'autres qui ne sont pas connues. Et c'est un système de torture institutionnalisé. Pour les femmes, pour les enfants, pour les hommes, pour les vieux, pour les jeunes, il n'y a pas de limite. Et moi, je connais un nombre de gens, et parfois, et qui est corrompu, alors, ce qui permet à certains de sortir quand leur famille est riche ou arrive à trouver de l'argent, ça fait sortir des personnes. Mais j'ai interrogé un nombre de Syriens qui ont été torturés dans des prisons ou des centres de détention, c'est pas forcément des prisons du régime, qui est hallucinant. J'ai parlé même, je me rappelle, en 2012, à un jeune qui avait 13-14 ans, quand il me montrait... son crâne qui était à moitié ouvert, qu'ils avaient recousu un peu n'importe comment après. Et il aurait pu mourir. Il n'est pas mort. Après, ils l'ont dit, vas-y, dégage, rentre chez toi. Il a eu de la chance, mais plein n'ont pas de chance et meurent dans des prisons. Et moi, ce que j'ai vu à l'époque, les tout premiers d'ailleurs, sa plus grande crainte, c'était ça, c'est de se faire attraper et envoyer en prison. Et en fait, pour finir, il est mort, il est tombé sur une patrouille de l'armée syrienne. Et sa femme, sa fille, c'est une grande famille qui maintenant est en Turquie, ils m'ont dit, on était content pour lui, parce qu'il est tombé dans la montagne sur une patrouille, ils ont tiré, il est mort directement. Il n'a pas été torturé, il n'a pas été... Donc c'est ce niveau-là de sauvagerie, quoi. C'est un truc qui n'est pas... Même la Libye, c'était pas comme ça. L'Afghanistan, il y a bien sûr des crimes... Mais c'est pas quelque chose de... Il y a des tortures, tout ça, mais c'est pas quelque chose d'institutionnalisé, de cette façon-là. Il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de bon sens qui prévaut. On est quand même dans une guerre qui, au final, aboutit à quoi ? Aboutit à plus de 10 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 6 millions d'exilés... Le nombre de morts, on ne sait pas en réalité, mais bon, on peut laisser. Enfin, certaines ONG syriennes qui travaillent bien d'ailleurs, parce qu'elles font ça de manière très rigoureuse, scientifique, on parle de 500 000 morts minimum. Alors, côté aussi régime, il y en a côté régime, bien sûr. Beaucoup de soldats tués. On arrive à des. La moitié d'Alep est dévastée. Aujourd'hui, ce n'est pas reconstruit. Ils n'ont pas l'argent pour reconstruire. Et on parle de 100 000 disparus dans les prisons. Donc, et ça continue, là, ils ont arrêté des gens dans la Ghouta hier, j'ai lu ça, et qui vont probablement disparaître.
Est-ce que c'est compliqué de travailler en Syrie? J'imagine que oui, la question est un peu naïve sans doute. Mais...
Ça dépend où. Dans le nord-est, pas tant que ça. C'est des problèmes essentiellement de trajet, c'est-à-dire que c'est long. Il faut des autorisations. Des autorisations sur des papiers tamponnés, signés. C'est pas des mails, quoi. Il y a beaucoup de checkpoints des Kurdes et des forces qui sont avec eux. Et on peut pas régler un passage au checkpoint en appelant quelqu'un. Ça marche pas comme ça. Donc il faut avant aller voir les responsables, leur parler.
C'est beaucoup de logistique.
Voilà, c'est la logistique. Après, on peut travailler. Il y a des endroits où on peut pas dormir, par exemple, parce qu'il y a pas d'hôtel. À Sakhé, par exemple, il n'y a pas d'hôtel. Donc, à moins de connaître quelqu'un sur place qui vous héberge, sinon, il faut refaire de la route. Donc, c'est des problèmes comme ça, techniques de trajet, essentiellement. C'est des heures de trajet en voiture par jour. Mais sinon, on peut travailler. Après, quand on est sur le front, donc là, on est avec ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont une alliance de combattants kurdes et arabes, mais qui sont dirigés par les Kurdes. Par les Kurdes du YPG. Et donc, c'est eux les chefs. Et c'est eux qui disent voilà, là, vous pouvez pas aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez pas rester là, là, vous pouvez rester une nuit. Et on peut discuter avec eux, on peut essayer de les convaincre, de dire bah non, mais là, on pourrait rester, on a réussi à faire un peu. Mais parfois, ils disent bon, là, faut partir. Parce qu'en plus, ils ont un problème, c'est qu'il y avait énormément de journalistes qui commencent à arriver quand je suis parti. Moi. Et là, il y en a plein, ils sont un peu débordés par le nombre de journalistes à gérer, parce qu'en plus, ils veulent vraiment pas qu'il y ait de morts ou de blessés parmi les journalistes.
Il y a une particularité dans ce conflit, quand on le voit du côté français, ce sont évidemment les djihadistes français qui sont sur place. Vous êtes allé dans les camps de réfugiés, vous êtes allé à la rencontre de ces familles, de ces enfants parfois qui sont dans les camps de réfugiés. Est-ce que là aussi c'est facile d'accès pour un journaliste? Est-ce qu'on peut aller leur parler? Est-ce qu'ils sont visibles?
Alors ça dépend des jours et des semaines. C'est-à-dire, il faut là encore une autorisation, il faut aller voir le responsable. Ce qui prend au total une journée au final. Mais et une fois qu'on a l'autorisation, le camp peut refuser ce jour-là que vous rentriez pour une raison ou une autre. C'est eux qui décident, c'est eux qui sont là. Et après, selon les semaines, en fait, parfois on peut rencontrer des djihadistes français ou américains ou anglais. Parfois on ne peut pas. C'est très variable. Je pense que ça vient des pays concernés qui disent là, on veut plus que des journalistes interviewent des. Et alors là, les camps où on peut aller, de toute façon, c'est les camps où il y a les femmes et les enfants.
Oui.
Les hommes sont
pas
séparés.
Les combattants.
Ouais. Les combattants sont dans des prisons souvent. Alors, il y en a qui vont faire des demandes d'interview de djihadistes hommes emprisonnés. Et les Kurdes en donnent. On a l'impression anglo-saxonne, on voit régulièrement. Tel djihadiste canadien, américain ou anglais qui est interrogé. Ça pose un problème par rapport aux conventions de Genève, quand même, parce que ce sont des prisonniers de guerre, de fait.
Oui.
Donc, normalement, on ne peut pas les interviewer. Enfin, il y a toute une série de règles. Certains les respectent ou pas.
Vous n'avez pas souhaité les.
Non, je n'ai pas fait de demande à cause de ça. Je n'ai pas fait de demande. J'ai préféré aller voir
les femmes et les enfants.
Les femmes et les enfants. Et surtout les enfants, d'ailleurs.
Oui.
Parce que les femmes, j'en ai rencontré quand elles sortaient d'Albarouz, vraiment, donc à quelques kilomètres. Et c'est du hasard total. Ça peut être un jour, on croise des Françaises ou des Anglaises. Le lendemain, il n'y en a pas. Il n'y a pas aucune règle, bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces djihadistes, ces futurs ex-djihadistes, on va dire, dans ces camps quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de la suite?
Le point commun que j'ai eu, c'est quand même beaucoup. Ceux que j'ai vus avaient peur de la justice irakienne. C'est-à-dire qu'ils disaient, notamment la Française avec qui j'étais longtemps, elle me disait, oui, mais là, il y a une Française qui a été condamnée à mort. En fait, elle n'a pas été condamnée à mort, elle a eu perpétuité, donc je crois qu'en Irak, c'est 20 ans. Mais ce n'est pas des conditions de détention faciles, hein. C'est des cellules communes, avec les enfants, etc. Et donc, elle ne voulait pas. Donc, elle a préféré se rendre aux Kurdes. Elle, ce qu'elle disait de mémoire, c'était que elle savait qu'elle irait en prison en France si elle est rapatriée. Elle veut être rapatriée, en fait. Elle sait qu'elle va aller en prison, ça ne l'inquiète pas du tout, parce que j'en ai vu d'autres ces 5 dernières années, donc je m'adapterai sans gros problème à une prison française. Il y a aussi un problème de truc, certains paraissaient vraiment déconnectés de notre monde, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur truc de califat, de chef, de chaîne de commandement, djihadistes, tout ça. Et moi, parfois, je leur disais, mais vous. Vous savez, en France, depuis les attentats, l'ambiance n'est pas au rapatriement. bien sûr, revenez, on va vous déradicaliser, pardon, ou je sais pas quoi. C'est pas, je dis, c'est pas ça du tout l'ambiance, hein, attention. Pour l'instant, une majorité veut pas que vous rentriez. Et eux, certains avec qui j'ai discuté se rendaient pas compte de ça.
Ouais.
Ils étaient ailleurs, quoi, vraiment. Notamment sur les enfants, il y en a qui me demandaient, mais qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants ? C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas demandé avant. Alors que certains, ils arrivaient quand même à communiquer avec des téléphones ou des trucs. Alors certains avaient des numéros d'avocats en France, avec qui ils parlaient de temps en temps. Certains parlaient avec leur famille. Mais d'autres paraissaient vraiment ailleurs, quoi. Enfin, celle à qui j'ai plus parlé, elle m'a dit à la fin, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Je l'ai mis dans le papier parce que ça me semblait, à la façon dont elle réagissait, dans les questions qu'elle me posait, parfois elle essayait de faire des blagues. Je voyais qu'elle ne se rendait pas compte du tout de ce qui s'était passé ailleurs dans le monde, de la violence, de la perception de la violence qu'on a de ce qu'a commis l'État islamique. On parle de crime contre l'humanité quand même. C'est pas un petit groupe armé perdu dans une forêt qui a tué 5 soldats, quoi. Donc, et elle a été complètement en dehors de ça, quoi. Comme si, ah oui, ah bon, c'est vrai. J'ai dit, bah oui, oui.
Pour aller plus loin, je vous invite évidemment à lire les reportages de Luc Mathieu pour Libération. Il a notamment récemment raconté sa rencontre avec Obeida et Amar, les orphelins français de Daesh, et c'est bouleversant. Merci à Luc Mathieu pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.